Bonjour et bienvenue à L'Expérience, le podcast du nouveau recrutement, dans lequel on parle avec des experts, des spécialistes RH et des entrepreneurs d'ici. Notre mission est d'humaniser votre recrutement pour faire de vous les employeurs modèles de demain. Je suis Fanny Larocque et aujourd'hui, avec mon acolyte Roselyne Kessy, on parle d'un sujet qui est dans l'actualité puis qui est tellement, tellement important.
On parle du fameux bien-être des employés. En fait, là, on en parlait déjà beaucoup, mais dans la dernière année et demie, avec le télétravail, le travail hybride, les bureaux, c'est plus que jamais sur toutes les lèvres. Mais c'est quoi en réalité le bien-être des employés? T'sais, est-ce que c'est une machine à popcorn pour tout le monde? Est-ce que c'est d'avoir une table de baby-food? Est-ce que c'est d'avoir du café gratuit pour les employés? Est-ce que c'est de prendre un 15 minutes pour faire des respirations? Mais c'est quoi? Je pense que c'est un petit peu plus profond que ça. C'est pour ça qu'on a décidé de faire un épisode complet là-dessus. Et qui est-ce qu'on a comme invité pour en parler aujourd'hui?
Aujourd'hui, on accueille Laura Parent de chez 724. Laura, une passionnée du bien-être. Quand elle parle du bien-être, on voit vraiment une étincelle dans ses yeux. Donc, Laura Parent, bienvenue à L'Expérience.
Merci tellement! Je suis tellement contente d'être avec vous aujourd'hui, surtout pour parler du bien-être.
Puis habituellement, on parle beaucoup du marketing RH, mais je pense que le bien-être s'est rendu ancré.
C'est tellement lié, puis surtout que mon expérience en marketing RH, en fait, c'est vraiment d'aider les entreprises dans leur rôle d'employeur à se connecter à la réalité des employés, donc à ce que les employés vivent. Donc moi, ça fait près de 4 ans que j'interview des employés, je participe j'anime des groupes de discussion, que j'analyse des sondages. Donc, on peut dire qu'après 4 ans, j'ai à peu près 10 de milliers d'employés, de data employés un peu, puis de ce qui se passe. Puis, en effet, depuis le COVID, ce que je remarque, c'est définitivement des enjeux au niveau du bien-être, puis du bien-être dans ce qui est vraiment global, puis dans ce qui est aussi autour de la santé mentale, là. Donc, c'est beaucoup ça qui ressort. Puis aujourd'hui, j'ai vraiment hâte qu'on parle de ces patterns-là des organisations puis de ce qui ressort en général puis de manière commune dans les organisations.
Tellement. Puis aujourd'hui, on veut vraiment parler de concret. Tu sais, des fois, c'est des petits steps, des fois, c'est des quick fix, des fois, ça peut être des stratégies, mais on veut vraiment être dans le concret. Avant de débuter, on aimerait en connaître un petit peu plus sur toi. Quand tu étais jeune, qu'est-ce que tu aurais aimé être?
Wow! Ça, c'est toute une question. C'est toute une question. J'ai définitivement pas le traditionnel, là. Je voulais être avocat, policier, tout ça. Je pense qu'on ne connaissait pas assez de professions quand on était jeune. Mm-hmm. Mais quand j'y pense vraiment, puis c'est un peu gênant de l'avouer, mais je rêvais d'être une célébrité.
Ah!
Ouais, je me voyais, puis je parlais en anglais toute seule là, dans la rue. J'étais normale, mais en tout cas, je parlais toute seule en anglais dans la rue, puis je m'imaginais être interviewée, puis comme les Spice Girls un peu, puis j'imaginais qu'une limousine noire allait arriver dans la rue, puis leur apparence n'est.
C'est vrai?
Venez avec nous.
Wow! Fait que ta vie, c'est un film.
Finalement, c'est pas ça qui est arrivé, comme vous pouvez remarquer par mon rôle chez 724. Mais je pense que c'était vraiment ça, là. C'était le. J'ai toujours aimé le monde des stars. Je suis bien impressionnable par les personnes
qui sont connues. Ton expérience aujourd'hui, t'amène un peu là.
Ben oui, c'est le rêve, dans le fond. Ouais.
Mais si on revient à notre sujet, qui est le bien-être des employés, premièrement, je veux savoir, qu'est-ce qui te passionne dans le bien-être des employés?
C'est difficile à expliquer parce que c'est un peu le même. Tu sais, c'est comme demander à quelqu'un pourquoi il est passionné de quelque chose. Puis des fois, il y a des explications rationnelles, mais moi, je suis vraiment une personne d'intuition puis de feeling. Puis depuis plusieurs années, je pense que ça a pris tout simplement le fait d'être sur le marché du travail, de voir comment ça se passe puis de voir comment je réagissais à différents éléments. Puis j'étais en multinationale dans le temps, vraiment en marketing, positionnement de la marque. Puis on était dans une multinationale, il y avait une grande acquisition, donc gros changement dans l'organisation. Puis il y avait beaucoup de communication aux employés, donc pour dire qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, etc. Puis il y a beaucoup de gens qui comprenaient qu'ils allaient perdre leur emploi. Il y a beaucoup de gens qui vivaient de la détresse autour de moi. C'est vraiment venu me toucher profondément, comme profondément. Moi, je savais qu'il n'y avait pas de perte d'emploi qui allait arriver. Tout ça, j'étais plus du côté gestionnaire. Mais le fait que les employés n'étaient pas nécessairement considérés ou mis au centre de la communication ou vraiment justement valorisés à travers ce changement-là, c'est venu tellement me toucher profondément.
J'étais sensible à ça.
Ah, tellement sensible à ça. Puis justement, dans la vie, comment expliquer qu'on est comme sensible à quelque chose plus qu'à l'autre, aux droits des animaux, à l'environnement versus autre chose? Moi, le bien-être des gens, et surtout du côté de la santé mentale, ça vient vraiment beaucoup me toucher. Puis c'est là que ça j'ai eu mon premier choc. Okay. Un peu quand tu réalises justement que tu es dans une organisation, tu as un choc de valeurs. Quelque chose qui se passe qui est contre tes valeurs. Et on l'a, beaucoup de gens, je pense, l'ont vécu. Puis c'est ça qui, ça vient te chercher vraiment au fond de toi. Puis moi, c'est vraiment ça qui est arrivé. Puis je me rappelle qu'à ce moment-là, je m'étais dit, tu sais, des fois, tu remarques des problématiques, mais tu n'es pas nécessairement la personne qui, tu dis, ah, ça, je remarque ça, ou il y a ce besoin-là, on pourrait faire, ah, ce produit-là, ça serait tellement pertinent, mais j'ai pas envie de le faire moi-même. Mais dans ce cas-ci, je me disais, j'ai envie, moi, de march in dans le bureau du président puis de dire, hey, je vais être ton happiness chief officer, genre, engage-moi, je sais vraiment quoi faire, je veux vraiment améliorer les choses puis faire que ça va mieux. Puis dans le temps, c'était happiness chief officer qui était le buzzword, ça fait comme 7-8 ans.
Ça roule encore.
Ça roule encore. Ça dépend des... Ouais. En tout cas, il y a bien du monde qui ont bâché ce titre-là, fait que je suis pas nécessairement... J'ai pas reparlé de ça, disons, depuis ce temps-là. Mais bref, j'avais envie vraiment, moi, de contribuer à ça. Donc, j'avais cette espèce de montée-là en moi. Puis, j'ai découvert à ce moment-là, en me cherchant un autre emploi, le marketing RH. J'avais aucune idée que ça existait. Puis pour moi, le marketing RH, c'était la manière d'aider les organisations à mettre l'humain au centre parce que moi, je crois profondément à ça. Pour moi, c'est une certitude. Si tu mets le bonheur de tes employés au cœur de ton organisation, tu vas avoir des résultats d'affaires exceptionnels. Je suis convaincue. Pour moi, c'est une évidence. Malheureusement, comme on voit, c'est pas nécessairement comme ça que les décideurs vont justement prendre leurs décisions nécessairement autour de l'humain. Ils vont pas voir ça comme ça. Mais moi, je suis une très grande believer dans « employee first, customer second ». Donc, ouais, hein, c'est peut-être audacieux, mais en même temps, ça ne l'est pas tant parce que la plupart des entreprises, que ce soit produit ou service, c'est grâce à ton employé que tu produis un certain service, une certaine qualité ou que tu produis une certaine qualité de service. Même chose qui est au contact avec le client. Donc, pour moi, c'est tellement évident parce que une personne qui est heureuse puis qui est bien puis qui est épanouie, oui, elle est plus productive et performante, mais elle est plus rayonnante. L'énergie qu'elle va dégager, le consommateur, il ressent ça.
Ton client interne puis ton client externe, ça devient ton client quand même.
Ben c'est exact. Ça. Donc, pour moi, c'était comme une vérité. Puis j'avais envie d'avoir une influence auprès des entreprises. Puis pour moi, le marketing RH, d'utiliser mes talents marketing, de faire rayonner des messages pour le bien des ressources humaines, pour le bien des employés, c'était vraiment... une manière de répondre à cette mission-là de bien-être. C'est devenu un peu comme une mission pour moi.
Puis est-ce que c'est de là que tu as fait, OK, ben moi, je fais du marketing RH, j'ai accès terrain, là, tangiblement avec du monde. OK, ben là, le bien-être, ça fait partie du marketing RH, mais ça fait partie aussi d'une stratégie. Moi, ça fait partie du recrutement, ça fait partie de tout. Puis là, c'est quoi pour toi le bien-être?
Ça, comme tu as dit, ça fait partie de tout parce que le bien-être, c'est directement lié à l'engagement aussi. Puis l'engagement, on voit que c'est de plus en plus important. Bon, on s'entend de nous, on sait que ça a toujours été important. Mais en ce moment, les employeurs réalisent à quel point il faut retenir nos employés parce qu'en ce moment, on est en pénurie de main-d'œuvre puis c'est vraiment difficile de recruter. Donc, il faut retenir nos employés, il faut garder nos employés engagés. Et pourquoi le bien-être est aussi attaché à ça? Pour moi, le bien-être, c'est assez simple. C'est vraiment juste de se sentir bien dans un environnement donné. C'est pas comme une émotion, parce qu'une émotion, c'est super éphémère. C'est comme, ah, j'ai un truc positif, là, j'ai un truc négatif. Le bien-être, c'est que la majorité de ton expérience, ça serait positif, puis ça serait dans le bien-être. Puis il y a vraiment deux composantes qu'on connaît au bien-être. Il y a la composante qui est très physique, puis il y a la composante qui est mentale. Moi, j'ai envie de parler des éléments qui sont sortis dans mes constats, puis qui, selon moi, sont des enjeux, parce que si je vous couvrais là, la bibliothèque de ce que c'est le bien-être, tu sais, je serais là dans du... plaisir, avancement, organisationnel, reconnaissance et tout ça. Je vais pas rentrer là-dedans. Je vais rentrer dans mes constats, dans mes observations après avoir sondé vraiment une dizaine de milliers d'employés puis beaucoup d'ateliers de la haute direction pour vraiment comme mesurer tout ça. Donc, on disait physique, mental. Du côté physique, donc naturellement, il y a la sécurité, se sentir en sécurité. Puis avec le COVID, ça a amené une grosse composante supplémentaire avec ça. Puis même, je dirais santé, c'est comme un peu... autant qu'on se sentirait pas en sécurité s'il n'y avait pas des mesures de santé, autant que le COVID est en lien avec la santé. Mais bref, le COVID, c'est vraiment... c'est venu quand même créer un enjeu qu'on n'avait pas avant ou une certaine peur qu'on n'avait pas avant, d'où le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont une crainte du fait de retourner sur les lieux de travail. Donc, c'est important de reconnaître aussi cette population-là parmi vos employés. Tout le monde n'a pas incroyablement hâte de revenir au bureau. Il y en a beaucoup qui ont vraiment une grande anxiété par rapport à ça. Il faut vraiment le considérer dans nos communications.
Ça fait partie du bien-être aussi, là.
Ben, tellement. Exactement. Donc, toute cette portion-là de je me sens en sécurité, je me sens que je peux préserver ma santé au travail, tandis qu'on n'avait jamais ce genre d'inquiétude-là avant le COVID, là, ma santé physique. Là.
On parle beaucoup du retour au travail, du télétravail, pour donner le choix. Les gens veulent pas venir, sont bien, mais on parle pas justement de cette anxiété-là, de la peur de face à la maladie ou face qu'ils peuvent se mettre en danger. On parle plus du fait que ben, les jeunes préfèrent être au bureau, ceux qui ont des familles préfèrent... On parle tellement pas de cet aspect-là, je trouve, dans le sujet du retour au travail puis du télétravail, dans le fond.
Tu as vraiment raison. Je pense que tu viens de faire ressortir le fait que c'est une question de perspective qui est prise de la part des employeurs. Leur perspective étant beaucoup plus rationnelle ou fonctionnelle, mm-hmm. tandis que nous, la manière qu'on travaille, c'est partir de l'employé, mais partir de comment il se sent. Puis pour moi, c'est ce que tu as nommé l'anxiété. On va jamais aller... chercher cette réponse-là si on se questionne juste sur, bon, comment ça va fonctionner, le retour au travail, est-ce que c'est 50-30? Mm-hmm. Est-ce que c'est vraiment les bonnes questions? Oui, c'est des questions de logistique et tout ça, mais la première chose à savoir, c'est comment vos employés se sentent par rapport à ça. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une portion, puis ça, c'est naturellement en les sondant, en leur parlant et tout ça, puis en les écoutant, puis en étant ouvert à ce qui va ressortir aussi. Parce que des fois, on sonde, mais...
T'es pas ouvert aux résultats,
c'est exactement. Ça. C'est ça.
Faut pas faire un sondage pour entendre qu'est-ce que toi, tu veux entendre.
Exactement. Puis ça arrive vraiment plus souvent qu'on le pense. Donc, on va un peu se fermer. Puis le cerveau humain, il est fait comme ça. On a une assumption, une hypothèse. Puis tout ce qui est contre cette hypothèse-là, ben, on va naturellement ne pas le voir, tandis qu'on va voir juste ce qu'on veut voir. Et ça arrive souvent dans les organisations. Donc, c'est important vraiment d'être à l'écoute puis d'aller prendre le pouls auprès des employés pour voir comment est-ce qu'ils se sentent par rapport à ça. Est-ce que j'ai justement à peu près 30 % de mes employés qui ont... C'est sûr que c'est à peu près ça. Honnêtement, il y a une grande portion des gens que le retour à normal leur a causé beaucoup d'anxiété. On a vécu une crise de santé publique au niveau mondial. Là, c'est énorme. C'est des conséquences incroyables. Puis imaginez les gens qui ont une perte de famille, de gens autour d'eux. Comment tu peux pas revenir à la normale nécessairement après ça? Donc, de considérer comment ils se sentent, nos employés, par rapport à ça, ça va complètement influencer la manière dont tu vas leur communiquer ce message-là de retour au bureau. Donc, c'est toujours de partir de cette place-là d'empathie puis de comment ils se sentent. C'est ça la question. C'est vraiment ça la question à se poser, de savoir comment ils se sentent.
Là, j'ai une question pour toi, puis on bifurque un peu, mais là, on parle du bien-être, de comment est-ce qu'ils se sentent. Puis là, moi, je me mets dans la place de mes clients qui est un gestionnaire d'entreprise, un président d'entreprise. Le bien-être, là, c'est la job à qui?
Oh, bonne question.
C'est-tu la job aux employés, au RH, au gestionnaire, au président? C'est la job de qui de s'occuper du bien-être?
C'est tellement une bonne question parce que 100 % du bien-être des employés n'est pas la responsabilité de l'employeur, à mon avis. Il y a des choses qui sont leur responsabilité, mais il y a des éléments qui vont toujours appartenir à chaque personne individuellement parce qu'on sait très bien dans nos pensées ou dans notre mindset, on a toujours le choix de voir quelque chose de très positif et négatif. Il y a des gens qui vont être malheureusement dépressifs, il y a des gens qui ont des troubles de santé mentale et que ce n'est pas la responsabilité ou la partie de l'employeur, c'est quelque chose qui est personnel.
Mm-hmm.
Par contre, aujourd'hui, les différents volets qu'on va parler, parce que j'ai envie de parler de différents points spécifiques, on va justement démêler qu'est-ce qui est plus la... Moi, je veux vraiment être l'emphase sur ce qui est la responsabilité de l'employeur.
Tout à fait.
Versus ce qui l'est pas, parce que moi, je suis pas de... Peut-être des gens... Pourtant, je suis très idéaliste, mais je suis pas idéaliste du genre que c'est 100% la responsabilité de l'employeur. Mais il y a des choses qui sont... sans hésiter la responsabilité, soit créer un environnement qui est propre, qui est sûr, qui est sécuritaire. Pour moi, ça, c'est
exactement. On en a parlé dans notre, dans un de nos podcasts, le safe space, c'est trop important.
C'est super important. Puis safe space physique, puis après mental. Mais ça, on va en parler aussi du safe space mental. Mais premièrement, ça, pour moi, c'est vraiment la responsabilité de l'employeur. Après, en termes de santé, l'employeur a aussi la responsabilité ou le choix de faciliter ses employés à avoir accès à un médecin, à des soins de santé. Mm-hmm. Ça, c'est par l'assurance. C'est des choses super, super simples.
Mais il y a aussi la télémédecine.
C'est ça.
Juste que quoi que ce soit, t'es pas obligé d'avoir des assurances.
C'est ça que j'avais en tête, puis j'étais pas sûre si c'était télémédecine. J'ai quelques entreprises en tête, là, mais ça, c'est le genre de choses concrètes que les employeurs peuvent faire. Mais moi, dans ma tête, les gens savent déjà ça, mais peut-être pas nécessairement. Mais bref, j'ai googlé ça. Donc, programme de bien-être sur Google et vous avez plein de ressources comme ça. Puis, on va parler de tout ce qui ressort pas dans les résultats Google aujourd'hui.
C'est mon rêve.
Oui, c'est ça. Parce qu'on s'entend que sur Google, je vous le dis, vous avez vraiment des bonnes ressources, honnêtement, là. Programme de bien-être, actions concrètes que vous pouvez faire. Aujourd'hui, on va plus parler de comment avoir un impact sur le bien-être des employés puis faire la différence dans, bref.
On est dans le tangible.
Ouais. Est dans le tangible, mais en même temps, c'est de l'intangible. Parce que pour moi, le tangible, c'est des programmes de bien-être. Puis nous, en marketing RH, il y a toujours des programmes RH qui sont présents. Puis j'ai absolument rien contre les programmes RH. Pour moi, c'est la base, puis c'est un must. mais ça veut pas dire que ça va avoir du succès. Ça veut pas dire que ça va avoir un impact auprès des employés. Puis moi, je veux parler de l'intangible auto, la manière de faire pour que ça ait un impact, comment tu le fais vivre, comment les employés en vivent le bénéfice, puis justement, que ça soit positif pour eux.
Mais je pense pas que c'est Google qui a la réponse à
pour ça. Pour ça, non. Ça, non.
C'est les employés. Oui, fait que c'est sûr que si tu fais tes recherches Google, tu vas avoir une bonne idée, mais dans le fond, pourquoi aller chercher aussi loin que de juste sonder tes employés? C'est eux autres qui ont la réponse. C'est eux autres qui vont pouvoir mieux te guider sur c'est quoi, quelle action tu dois prendre pour assurer un bien-être de tes employés dans le contexte puis dans l'entreprise dans laquelle que t'es. Je pense que c'est différent à chacun.
Exactement. Mais il faut faire attention parce que c'est pas parce que tu fais un sondage. Je vais vous le dire. Moi, en tout cas, mes clients, 100% font des sondages. Déjà. Donc, des sondages d'engagement, des sondages. Mmh. Il y a plein de compagnies, là. Office Vibe qu'on connaît, etc. Puis ça, c'est vraiment super pour prendre le pouls des employés. Par contre, ça n'empêche pas que quand on arrive, il n'y a pas nécessairement énormément d'actions qui ont été faites ou entreprises afin de répondre aux différents enjeux. Est-ce que la partie, si vous allez faire des sondages, la portion de l'analyse et de qu'est-ce qu'on fait avec ça par la suite est vraiment super importante. Puis le deuxième élément, c'est est-ce que vous avez informé vos employés de le statut de ces sondages-là? Qu'est-ce qui ressort de ces sondages-là? Qu'est-ce qu'on fait avec les résultats? Parce que les employés, sinon, écœurent en titre de sondage garanti. Mmh.
Puis dans quel but ils font ces sondages-là aussi?
Exactement! Exactement. Quels sont les différents objectifs auxquels on veut répondre? On veut s'assurer que vous êtes bien dans votre environnement de travail. On veut s'assurer que notre vision et nos objectifs sont clairs. On veut s'assurer que notre style managérial vous convient. À chaque 3 mois, nous allons vous communiquer les résultats et qu'est-ce qu'on va faire puis notre plan d'action en lien avec ça. Juste ça, c'est super rare que des entreprises vont faire ça.
Puis les réponses vont être probablement différentes que si tu réponds juste un sondage comme ça. Mais si je réponds vraiment parce que je sais c'est quoi l'objectif derrière le sondage, ça se peut que ma réponse ça soit différente, qu'elle soit un petit peu plus pensée puis que je prenne plus le temps de bien répondre parce que je sais que ça va avoir un bénéfice directement sur mon bien-être.
Dis-toi qu'après 10 ans de répondre au même sondage puis ayant jamais entendu parler de ça, tu réponds plus de la même manière.
Mais non.
C'est comme j'ai plus aucune foi en ça puis ça crée vraiment, vraiment une écœurantite puis c'est vraiment pas ce qu'on veut.
Et là, toi, de ton travail, c'est quoi ton constat? Qu'est-ce que tu vois? Parce que tu vois tellement de gens. C'est quoi comme ton... Même si c'est pas des chiffres, même si c'est pas comme des études, c'est quoi ton constat sur le terrain?
En fait, c'est moi, je trouve que l'enjeu en ce moment, c'est surtout l'aspect santé mentale du bien-être. Donc, comme on avait dit dans le bien-être, il y a l'aspect physique qu'on a davantage nommé. Puis je pense que les organisations ont plus de facilité parce que c'est plutôt protocolaire, c'est plutôt des programmes, c'est plutôt la convention. Donc, il y a physique puis il y a mental. Je trouve que d'un niveau mental, c'est un peu plus difficile puis c'est super intangible. Puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est principalement 3 composantes. Donc, la première, c'est le niveau de stress, qui est le premier enjeu. Le niveau de stress, puis j'aime beaucoup parler du niveau de stress à mes clients avec une courbe normale, donc la courbe qui fait ça comme ça. Le premier axe, c'est le niveau de stress, puis le deuxième axe, c'est la performance. Donc, dans le fond, avec un certain niveau de stress, la performance et la productivité augmentent. Il y a un petit niveau de stress qui est positif. C'est le petit niveau de stress de mes tâches sont stimulantes, on me pousse à me dépasser dans mon travail.
Un petit challenge.
Ouais, exactement. C'est ce qui fait que c'est stimulant. Je dirais que ça serait ça le mot. Donc, puis ça, c'est ce qu'on recherche dans une organisation, dans des défis, que ça soit stimulant. Donc, à un certain niveau de stress, on a une super performance et productivité, ce qui est ce que l'employeur veut au maximum. Donc, un petit peu de stress, c'est bon. Par contre, au-delà de cette limite-là. Puis quand on est dans beaucoup, beaucoup de pression, puis des gros niveaux de stress, ça peut être en termes de charge mentale, en termes de charge de travail en tant que tel. Avec les pénuries de main-d'œuvre, on se cache pas que il manque des gens dans les organisations. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui en prennent le double puis le triple en ce moment.
Ça, puis les gens, avec la COVID puis la pénurie de main-d'œuvre, tu as le niveau de stress au travail, puis tu as la charge mentale aussi à la maison.
Tellement. Tu as la charge mentale, puis je m'excuse, là, mais les Zooms toute la journée, là, c'est
mais oui, il y a un moment où on est plus capable.
Un des éléments que j'ai dit à mes clients depuis le COVID, c'est vos employés peuvent plus travailler le même nombre d'heures qu'avant sur Zoom. Ça ne fonctionne plus. J'ai remarqué ça, là. C'est un de mes constats. Le nombre d'heures, un 40 heures semaine, par exemple, exigé à ses employés, c'est beaucoup trop.
Ça devient qu'on a les yeux rouges comme un lapin.
C'est pas. Imaginez, avant, on avait des meetings, on se déplaçait, la petite machine à café. Là, c'est vraiment plus du tout ça. C'est vraiment super intense. Puis, on a demandé à nos managers, à nos employés, dans ces 1 an et demi-là, en plus d'avoir vécu de manière personnelle, incertitude, isolement, stress extrême. On leur a demandé de l'agilité parce qu'il faut se transformer comme organisation. La plupart des organisations, pour survivre, pour être prospères, ont dû évoluer, se transformer complètement. Et c'est qui fait ce travail-là? Ben, c'est les managers, c'est les employés qui doivent faire preuve d'agilité. Donc, en plus, ça nous demande une énergie quadruplée parce qu'on doit vraiment, justement, faire arriver les choses puis innover sans cesse puis être sans cesse hors de notre zone de confort. Déjà qu'on est dans un environnement personnel qui est super comme, disons, fragile. Donc, imaginez tout ça, comment c'est intense. Donc, oui, charge mentale, puis les gens peuvent plus travailler autant qu'ils pouvaient avant. Là. C'est vraiment plus la même réalité. C'est vraiment spécial, mais c'est vraiment majeur. Donc, au-delà de ce niveau de stress-là, là, c'est plus positif. Donc, en tant qu'employeur, il faut se demander, est-ce que je, en termes de pression et de stress que je mets à mes employés, le niveau, il est à quel endroit? Donc, ça, c'est vraiment un des aspects qui est vraiment important. Sinon, il y a plein de choses qu'un employeur peut faire pour les aider à mieux gérer leur niveau de stress. Déjà, avoir accès à une ou un psychologue. Donc,
parce que là, en ce moment, c'est d'or et rare, j'ai les petits, là.
Oh mon Dieu, mais ça se la demande augmenter.
C'est ça, comme jamais. Vraiment. Puis il y a justement, j'ai entendu parler il n'y a pas très longtemps, il faut faire attention avec ça aussi, l'accès à des psychologues, c'est bien parce que là, on embarque dans le sujet de la santé mentale qui touche particulièrement beaucoup, puis je pense qu'il va toucher beaucoup de gens qui nous écoutent. C'est bien, les gens de plus en plus sont plus conscients de ça, vont aller chercher de l'aide, vont aller faire appel à des professionnels, mais ça l'affecte au niveau des assurances collectives. Le fait que t'as fait appel à un psychologue, ça a sorti genre comme il y a pas si longtemps que la personne a fait appel à un psychologue parce qu'elle a passé par une séparation difficile. Donc elle a fait appel à ça pour faire du cheminement personnel. Puis quand elle est arrivée le moment où elle a dû renouveler ses assurances vie et tout. Arrête. Santé mentale, je te
jure. Augmenter comme la prime et tout
non,
ça.
Non, mais ils ont refusé de couvrir cet aspect-là.
Oh mon Dieu.
Donc là, ça, c'est un sujet qui est
Dieu.
Tellement... On se parle
de business. Non, c'est ça.
Guys, on se parle de business.
Non, oui, vraiment. Là. Donc, on est en révolution vraiment à ce niveau-là du sujet de la santé mentale. Puis je pense qu'il y a vraiment comme un tournant qui va se passer.
Totalement.
Mais il faut qu'on en parle.
Point de non-retour depuis le COVID.
Exactement.
Les gens ont atteint un bas fond, là. Puis là, c'est c'est ça qui est... Pour moi, c'est positif parce que malheureusement, dans la vie, on a besoin d'atteindre un maudit bas fond pour se dire... OK, là, il faut que je priorise ça dans ma vie. Mais c'est toujours ça.
Puis là, on a une ouverture d'esprit aussi. T'sais, avant, mettons, je parle avec un client, puis je dis, ah, ben cette personne-là, elle va voir un psy. Ben voyons donc, est-ce malade mentale? Puis là, on est beaucoup dans la prévention. Ben cette personne-là, elle va consulter parce que justement, elle est mieux prévenir que guérir.
Exactement.
Mais là, tu vois une ouverture d'esprit à ce niveau-là, puis c'est pas juste quelqu'un qui va pas bien qui consulte. Tu sais, c'est rendu que c'est encouragé.
Ben oui, tellement. Ben moi, je suis vraiment une pro... Pro-psychothérapie, j'en ai fait toute ma vie. J'ai magasiné les psychologues. Je trouve ça super important. J'en ai pour chacune de mes problématiques.
Ah ouais, hein?
Oh, ouais.
Ben oui.
Okay. Il faut qu'ils se battent pour moi. Non, mais c'est... Non, mais c'est ça vraiment. Fait que ça, c'est un des exemples qui est vraiment facile. Apprendre à ses employés ou faire des formations, justement, à la pleine conscience, apprendre à méditer, de créer des safe spaces de yoga, de méditation, des salles de repos. Il y a vraiment plein de choses concrètes qui peuvent être faites à ce niveau-là. Mais déjà, de se questionner. Puis moi, c'est beaucoup des points de réflexion qui vont ressortir de cette séance-là. C'est beaucoup le niveau de stress de mes employés et comment et pourquoi. Donc, au niveau de la pression que je mets à mes employés. Ça, c'est le premier point que je trouve qui est vraiment un enjeu. Le deuxième point, c'est l'inclusion. Donc, peut-être que vous attendiez pas nécessairement que je parle de ça
aujourd'hui.
Mais
là, on vient de faire une formation, là, en ce moment, de ça, là.
De la donner ou de la suivre?
On vient de la recevoir.
Wow!
C'est pour ça que tu dis ça, c'est un point.
Est-ce que c'était sur les biens conscients? C'était quoi le sujet?
C'est sur tout ça.
Sur, en général, la diversité, l'inclusion.
Diversité, inclusion, une belle... Belle formation.
Ben, c'est parfait pour aujourd'hui. Donc, pour moi, quand j'ai dit c'était quoi le bien-être, c'est le fait d'être bien dans un environnement donné, donc avec l'interaction avec ses collègues, etc. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'une personne a besoin de se sentir acceptée, valorisée, écoutée, considérée de la même manière que tout le monde. Donc, l'inclusion devient vraiment clé. Parce que toutes les personnes dans les organisations, la réalité, puis j'allais dire au Québec, mais honnêtement, on est comme ça partout à travers le monde, mais c'est vraiment un enjeu que tout le monde, peu importe leur différence, peu importe leur origine ethnique, leur âge, leur sexe, leur identité de genre, donc des personnes en situation d'handicap, couleur de la peau, tous ces facteurs-là, et même diversité d'idées, d'opinions, etc., Le fait que ces gens-là se sentent tous bien, c'est très rare dans une organisation. Vraiment. Depuis le COVID, ça ressurgit avec les événements de mai 2020. Les entreprises réalisent, se sont enfin ouvert les yeux. Il y a eu un éveil collectif sur le fait qu'il y avait des enjeux majeurs. Et moi, je veux vraiment mettre l'emphase sur l'inclusion plus que sur la diversité. Donc, le côté diversité de « faut atteindre des quotas, faut recruter des personnes issues de la diversité », malheureusement, ce message-là, ça n'a pas été bien reçu par la plupart des employés. Donc, les gens se sont mis des barrières. Oui. Exactement. Ça divise, ça crée de la ségrégation, puis ça crée de la résistance de la part des personnes qui ont peur de perdre des privilèges, qui ont peur de perdre des pouvoirs, qui ont peur de perdre leur position de pouvoir depuis toutes ces années-là. Puis je vous le dis parce que c'est ressorti dans des commentaires de sondage, là, des personnes caucasiennes, donc par exemple mâles âgés dans la cinquantaine caucasienne qui perçoit qu'il est défavorisé par rapport aux autres. Donc, parce que l'entreprise, à sa perception, va toujours prioriser des personnes issues de la diversité, peu importe la compétence et tout ça. Donc, ça, c'est des mécanismes de résistance au changement qui ressortent avec ça. Donc, moi, j'aime beaucoup mieux qu'une entreprise communique sur on veut que tout le monde ait les mêmes opportunités et se sente bien, peu importe leurs différences. Donc, sur le fait de bâtir une culture qui est inclusive. Et pour moi, ça, c'est une des questions principales qu'une organisation doit se poser. C'est quoi le climat? Est-ce qu'on est dans un safe space? Est-ce que c'est une culture qui est inclusive à tous et à toutes dans notre organisation?
Puis comment tu définirais justement une culture inclusive s'il y en a qui viennent d'écouter puis que c'est comme la première fois qu'ils en entendent parler?
Pour moi, une culture inclusive, ça serait vraiment une culture où est-ce que quand tu es une personne, puis peu importe quelle personne venant de n'importe quel de milieu, ou peu importe ton origine ethnique, ton âge, diversité corporelle, et peu importe tes idées, tu te sens accepté, tu te sens valorisé, tu te sens écouté et considéré. Tu sens que tu as les mêmes opportunités d'avancement
que
tout le monde. Et tu peux même voir des leaders qui sont comme toi, à qui tu peux dire « c'est accessible à moi, ça ». Il y a une autre personne comme moi qui est en position de pouvoir ou qui est de pouvoir, c'est un peu en leadership, on va dire, qui est en leadership. Donc, je sais que c'est possible pour moi puis j'ai ces mêmes opportunités-là. Puis c'est le fait de se sentir vraiment bien puis inclus comme accepté, carrément comme à la cour d'école, là, parce que l'opposé de l'inclusion, c'est vraiment l'exclusion. Puis j'ai entendu des témoignages comme ça, c'est terrible à entendre, ça m'a brisé le cœur, mais c'est de l'exclusion, c'est du rejet, comme on vivait dans la cour d'école, c'est de la ségrégation. Et ça, c'est le...
Mais on le vit encore, là. Moi, mes enfants, ils vivent à l'école.
Ben oui, exactement. Encore, mais sur le marché du travail, il y a une certaine forme d'exclusion qui est faite de manière très différente et malheureusement très subtile.
Ouais.
Et pour moi, c'est encore plus vil. Oui, c'est très sournois. Exactement. Mm-hmm. C'est très, très sournois.
On le dit, on parlait d'engagement tantôt, puis on en parle de plus en plus dans les entreprises, de vraiment susciter le sentiment d'engagement des employés. Mais ça en fait partie d'un des critères pour susciter le sentiment d'engagement chez les gens, c'est de pouvoir se connecter aux autres.
Ouais.
Fait que c'est super important, l'inclusion.
Oui, exactement. Vraiment. Non, ça, c'est vraiment super clé. Puis, c'est important, puis parce que je vais aller un peu dans le plus tactique de pas tomber dans le piège, là, parce qu'en général, les sondages, en général, c'est l'ensemble des employés. L'ensemble des entreprises au Québec sont constituées en majorité de caucasiens ou de personnes non issues de la diversité. Donc, ce que ça fait, c'est que quand on a une question sur l'inclusion, sur l'ouverture aux idées et tout ça, si on a dans les 85 % en général, on est heureux. Mais le problème avec ça, quand on peut pas savoir la moyenne, elle est où, qui a répondu quoi, c'est dans le fait qu'il y a quand même un 15 % qui ont peut-être pas du tout cette réalité-là, puis c'est beaucoup trop 15 % qui se sentent pas, qui se sentent pas écoutés et tout ça. Donc, dans ce cas-ci, il faut vraiment aller dans un vrai sondage puis audit de diversité, d'inclusion pour aller chercher. Quand je prends mes personnes, je segmente mes personnes non issues, issues de la diversité, en fait, est-ce que leur expérience est la même? Puis là, quand tu compares les données une à côté de l'autre, là, c'est impactant. Là, tu vois la vraie vérité. Puis en général, les entreprises vont pas jusque-là. Donc, j'encourage vraiment beaucoup d'entreprises à faire ces démarches ou sinon, au moins, de se poser la question. Ça, c'est vraiment la première étape.
Ça serait quoi le troisième point?
Le troisième point, je prends beaucoup de temps par point, mais bon, j'ai envie d'élaborer.
On aime ça.
l'autonomie.
Oh!
Donc, oui, ce point-là, pour moi...
Le bien-être,
l'autonomie? Oui, pour moi, ce parce que le bien-être, c'est de se sentir bien, puis c'est d'avoir une certaine satisfaction aussi dans son travail. Donc, c'est d'être bien... Pour moi, c'est directement lié à la santé mentale. Le fait que, puis j'ai réfléchi dernièrement beaucoup à l'autonomie et j'ai même changé ma perspective parce que quand j'analysais une culture d'organisation versus une autre, j'avais la perception qu'il y avait des organisations qui étaient vraiment axées sur l'autonomie et d'autres non. C'est une culture où est-ce que la force est l'autonomie et d'autres non, puis c'est bien correct comme ça.
Benoît Chalifou nous en parlait justement, vraiment, qui est venu, puis il parlait beaucoup de l'autonomie, ça faisait des profils atypiques, mais des gens qui se développaient puis qui étaient mieux en santé, qui étaient heureux. Mm-hmm.
Ouais, c'est de donner l'opportunité justement d'évoluer, puis c'est un autre point pour susciter les sentiments d'engagement aussi.
Mais
ça fait partie de
c'est
ça.
C'est tout lié à l'engagement, ce qu'on dit, tu pourrais le dire à chaque fois, mais quand absolument. Tu te sens bien, tu te sens engagé. Fait que c'est toujours lié à ça. Puis l'autonomie, ce que je trouve vraiment important de mentionner, c'est que peu importe, parce que un peu une de mes réalisations, c'est que peu importe le milieu, puis j'inclus le milieu manufacturier là-dedans aussi, on a tous besoin d'une certaine autonomie dans notre carré de sable donné. Donc, un directeur marketing va avoir un terrain de football en termes d'autonomie, va avoir beaucoup plus de responsabilités, va être beaucoup accountable pour beaucoup plus d'éléments. Donc, a besoin de plus d'autonomie. Dans le milieu manufacturier, ça va être une personne qui va avoir un rôle, une tâche précise, mais c'est quand même important que cette personne-là sente que ça lui appartient.
Tout à fait.
Parce que sinon, comment cette personne-là se sent accomplie puis fière de ce qu'elle a fait? Comment est-ce qu'elle sent qu'elle est un maillon dans un grand projet puis qu'elle contribue à quelque chose de plus grand qu'elle? Puis ça, c'est vraiment au cœur du bien-être, de la santé mentale, puis du, tu sais, parce que le bien-être pourrait se résumer par la pyramide de Maslow, puis le besoin d'accomplissement, il vient du fait que je sais que dans mon carré de sable, ça a l'air négatif, mais c'est pas négatif, c'est juste pour dire, dans ma zone d'autonomie, je suis le responsable de quelque chose. Puis pour moi, la responsabilité vient avec l'engagement. Si on se sent pas responsable de rien, on peut pas être engagé. C'est pas nous qui nous occupons de rien. T'es pas imputable, exactement. Fait que pour moi, ça, c'est vraiment un des points importants, c'est que peu importe l'organisation, il faut respecter l'autonomie, peu importe la grandeur de chacun de nos employés, mais de se questionner sur c'est quoi leur différent carré de sable, mais de sentir que ça leur appartient.
Mais là, je fais du chemin sur ce que tu as dit parce que on a eu beaucoup de mandats cadres dans le milieu manufacturier dernièrement, puis tout le monde me disait, là, vous allez, il y en a qui vont se reconnaître, je veux quelqu'un qui est accountable, je veux quelqu'un qui est imputable, tu sais, qui est français-anglais, je veux de l'imputabilité. OK, fine, on va t'en trouver de l'imputabilité, mais ta personne, elle a-tu du jeu aussi pour être imputable, tu sais? Fait qu'un vient avec l'autre. Oui, tu peux dire quelqu'un, t'es imputable, on a besoin de ça, on a besoin de quelqu'un qui va se responsabiliser puis qui va prendre action dans tout ce qu'il fait. Mais est-ce que cette personne-là a de l'autonomie pour l'être ou tellement tout est structuré? Fait qu'on dirait qu'un vient avec l'autre, mais je viens de réaliser.
Tu me voles mon prochain point dans le sens que c'est tellement pertinent ce que tu as dit. C'est, nous, en fait, c'est un des éléments qu'on évalue, c'est est-ce que vous permettez cette autonomie-là? Puis en ce moment, pour moi, un des enjeux dans l'autonomie, puisque j'ai énormément remarqué, c'est des gestionnaires que dans leur comportement, donc on va parler de micromanagement, là, parce que pour moi, c'est vraiment un des gros enjeux qui nuit à l'autonomie. Puis je trouve que un des pour moi, ça fait un cercle vicieux. Fait que là, je vais vous décrire ce cercle vicieux-là qui se passe, qui vient vraiment nuire à l'autonomie d'un employé. Donc, première étape, le gestionnaire est très expert dans ce qu'il fait, il adore contribuer et tout ça. Et malheureusement, ça va un peu trop loin. Il va souvent trouver les solutions pour son employé, il va souvent prendre des initiatives pour l'employé. Il y a un certain besoin de contrôle. C'est quelque chose qui est dans sa zone de confort. Donc, le gestionnaire fait ça, fait ces initiatives-là, prend un peu plus le contrôle du projet. Qu'est-ce qui arrive? Bien, l'employé, lui, se déresponsabilise naturellement. Puis moi, ça m'est déjà arrivé, je suis quelqu'un qui prend full d'initiative, qui est super go-getter, mais si quelqu'un vient dans mon turf, puis vient prendre des décisions pour moi, puis je vais pas me battre, puis je vais le laisser. Ben c'est ça, vas-y. Mais naturellement, c'est le comportement d'un humain le plus naturel. On s'en rend même pas compte. On va naturellement se déresponsabiliser, puis on se sent plus imputable pour le projet. Donc.
Puis tu cares moins.
Totalement.
Si tu prends pas la décision, tu le fais pas, on dirait que tu cares moins, puis après ça, ben.
C'est ça. Ils perdent ce sentiment d'appartenance-là au projet. Ça a quand même un gros impact, là, un gestionnaire qui fait ça. Puis je veux pas pointer du doigt négativement un gestionnaire. On l'a tous fait.
Non, mais des fois, il y en a qui le font. Mais moi, je peux le faire, puis je m'en rends pas compte.
On le fait tous inconsciemment, puis c'est vraiment important juste d'essayer de vous poser cette question-là puis d'en prendre conscience parce que là, l'employé, il perd son sentiment d'appartenance. Puis son sentiment d'appartenance, c'est ce qui lui donne son sentiment de fierté. Puis c'est ce qui est lié directement à son bien-être puis à son engagement. Puis là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pas prendre d'initiative. Il va pas prendre en charge. Puis là, ironiquement, ben le gestionnaire, il est déçu. Parce que Parce que l'employé, il fait pas toutes les initiatives que le gestionnaire aurait nécessairement en tête comme attente que l'employé fasse. Mmh. Donc, le gestionnaire finit par être déçu. Puis, la fameuse mentalité, faut tout que je fasse moi-même. Mmh. Tout est mieux fait. On est toujours mieux servi par soi-même. Et là, le gestionnaire finit par perdre un peu confiance en l'employé. Et donc, il a besoin de contrôler encore plus.
L'employé perd confiance en lui. Fait que c'est, comme tu dis, c'est un servicieux.
C'est un servicieux. Et je vous dis, c'est vraiment un des points que je vois très, très souvent dans les organisations qui fait que les employés sont désengagés. Vraiment, vraiment beaucoup. Et donc, ils sont vraiment moins bien. T'as pas envie d'aller au travail quand rien t'appartient. C'est vraiment ce sentiment d'appartenance-là. Puis c'est pour ça que je le nomme un peu autonomie, mais c'est ton bébé. C'est ton projet, c'est ta tâche, c'est ton rôle, c'est toi qui es responsable et donc tu contribues à quelque chose de plus grand que toi.
Ben, puis si je fais du pouce là-dessus, on parle beaucoup en ce moment des employés, tu sais, les superstars, tu sais, dans notre industrie, tu cherches.
High potential, c'est ça.
Il y a high potential, il y a superstar, il y a les perles, la relève. Ce monde-là, là, ils ont besoin d'un gros carré de sable, tu sais.
Ouais.
Pour être autonome, pour être épanoui, puis si tu leur laisses pas, sont pas épanouis puis ils quittent, exactement.
Pour se dépasser, c'est ça. Ils vont quitter ces gens-là.
Exactement.
Totalement.
Mais ça prend un manager qui est fort. Mm. Qui est fort pour le voir, pour le laisser aller puis pour faire, ben, tu dis quoi? Ah ouais.
Bonne question. Ça prend énormément de force et de maturité et de conscience de soi pour déléguer et pour justement laisser une autre personne gérer le projet et ne pas trouver les solutions et les réponses pour la personne.
Mm.
Ça prend énormément de conscience, mais c'est vraiment la clé. Et ça commence par la conscience de soi.
Fait que la question à se poser pour nos gestionnaires, c'est est-ce que vous êtes prêt à recevoir la superstar que vous voulez?
Ouais.
Dans le fond.
Parce que dans le fond, t'as vu, mais quand t'es rendu là, t'es pas prêt
à... Vous voulez les gens performants?
Oui.
Est-ce que vous êtes prêt à les accueillir et à les laisser s'épanouir?
Oui, c'est ça. Mais on va revenir avec Laura Parent. On va continuer sur le bien-être. Puis on a vraiment des belles discussions.
Mais je pense que les gens ont avantage à aller écouter la capsule justement des trois must pour.
Oui, les trois must avec Roselyne. Puis on revient tout de suite.
L'agent Charlie est fier de vous présenter les trois must pour assurer le bien-être dans votre entreprise. Premièrement, mais sondez vos employés. Ce sont les meilleurs placés pour savoir vraiment ce qu'ils ont besoin pour être bien dans votre organisation. Deuxièmement, soyez ouverts aux résultats de sondage et mettez vraiment en application un programme de bien-être et de santé. Et troisièmement, assurez une certaine sécurité pour vos employés. Et quand on parle de sécurité, on parle surtout de sécurité physique, mais surtout de psychologie. Pour en savoir davantage sur nos services de formation en entreprise, rendez-vous sur agencecharlie.com. Et pour avoir du contenu exclusif sur le sujet d'aujourd'hui, abonnez-vous à notre Patreon.
On est de retour au podcast L'Expérience avec l'expérience de Laura Parent sur le bien-être. J'aimerais aussi vous rappeler qu'on va avoir du contenu exclusif, là je ne veux pas le jammer, sur notre Patreon.
Sur le Patreon!
Yeah, girl.
OK.
Fait que tout le contenu que Laura va dire aujourd'hui, on va le synthétiser, puis tout ça, ça va être sur nos médias sociaux, mais également sur le
Patreon.
Merci, Rosine. J'ai de la misère avec tout le monde aujourd'hui.
Donc, on parlait de l'expérience employée. On a eu des sujets super intéressants. J'aimerais ça qu'on revienne un peu
sur le bien-être.
Si vous voulez, on peut entrer dans un peu mes constats par rapport au comment ou les réflexions à avoir quand je suis un décideur ou un gestionnaire dans une organisation sur comment amener plus de bien-être auprès de mes employés ou se poser la question sur est-ce que le bien-être est là?
On part de où?
Oui, c'est
comment
ça.
Qu'on part ça?
C'est ça.
Ouais.
Puis ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est pas ce qu'on va trouver sur Google. Ce n'est pas les programmes de bien-être. Je pourrais bien vous dire achetez des Fitbit à tous vos employés. Mm-hmm. Ça en est un truc. D'ailleurs, les assurances, etc., la télémédecine, tout ça. Tout ça, ce sont des bonnes idées. Moi, je veux vraiment vous parler de qu'est-ce qui fait que ça a un impact auprès des employés. Puis ce que j'ai remarqué qui est vraiment des enjeux qui se passe au niveau des décideurs de la haute direction puis des gestionnaires aussi. Ça, c'est vraiment ce qui est important pour moi. Donc, je vais pas vous dire d'aller vous acheter une table de ping-pong, une machine à popcorn. Puis à mon avis, honnêtement, ça fait absolument aucun impact. Ce n'est pas ça, le bien-être, parce que le bien-être est dans le ressenti. Donc, si je me sens pas inclus au quotidien dans un safe space, comme on a dit tantôt, puis si je me sens super stressée, ben la table de ping-pong, pour peut-être que pendant 5 minutes, elle va relieve mon stress ou me calmer un petit peu, mais pas plus que ça, là. Donc ça, c'est vraiment des petites patchs, comme j'ai envie d'appeler. Donc je vais plus parler de changement à long terme et de manière de faire pour vraiment changer les choses. Là, je vous amène là, dans des concepts complètement parallèles qu'on parle pas nécessairement en ressources humaines. Pour moi, il y a deux grandes clés.
On est toutes pas des ressources humaines.
By the way. C'est vrai?
Nous, on est spécialistes du recrutement.
OK.
On n'est pas des HR. C'est tout parallèlement. Toi aussi, marketing RH, c'est parallèle, mais... Mm-hmm.
Mais ça amène d'autres perspectives. Je pense que c'est là que la créativité va naître, parce que c'est ça qui peut être intéressant. Donc, moi, je vous parle de un concept. En fait, je m'inspire, je vous donne un peu de contexte. Je m'inspire du concept de la pleine conscience, qui est comme une de mes passions que j'ai étudiée dans les 10 dernières années. Pour ceux qui connaissent pas la pleine conscience, mindfulness en anglais, c'est vraiment un état de conscience qui va se manifester quand tu portes attention au moment présent de manière intentionnelle et sans jugement. Donc, au moment présent et avec tes pensées qui surgissent. Puis, la pleine conscience, ça reconnaît l'existence du conscient dans un être humain et de l'inconscient aussi. La psychologie aussi, d'ailleurs, reconnaît ça, le conscient et l'inconscient, ce qui est vraiment hallucinant et difficile à intégrer, honnêtement, c'est que plusieurs experts en neurosciences disent qu'il y a seulement 5% de nos décisions, de nos actions, de nos émotions qui sont conscientes. Seulement 5% de nos décisions. Seulement 5% de nos décisions qui sont conscientes. Parce que le reste, on va voir un beau iceberg dans cette métaphore-là.
Oh!
Est-ce que vous aimez ça, les métaphores des icebergs?
On a commencé toute part d'iceberg. Fait que j'adore. Là. Si t'en as un autre, là, go!
Écoute, je pourrais comme te parler de chaque concept avec un iceberg. D'ailleurs, j'en utilisais un pour le marketing RH, comme quoi le recrutement était une petite partie, puis que la rétention, on était une grande.
Je m'excuse, on a crié, là, on est vraiment excités, mais c'est ça.
Les icebergs, c'est la vie, gang. Okay. Mettez ça dans vos présentations PowerPoint, votre vie va changer. Donc, 5% d'action consciente. Je vous explique un peu pour que vous compreniez, sinon les gens ne peuvent pas vraiment l'intégrer. Mais pensez quand vous rendez au travail, vous prenez toujours le même chemin, puis vous pensez à plein d'autres choses. Donc, vos pensées sont dans le conscient, mais là, vous tournez à gauche, vous mettez le clignotant, vous pesez sa pédale, vous pesez sa cloche. Tout ça, ça se passe dans votre inconscient. Le fait de respirer, le fait de faire battre votre cœur, le fait de cligner des yeux.
Un automatisme.
Oui, exactement. Mais c'est ça, tout ce qui se passe dans l'inconscient, mm-hmm. c'est ton inconscient qui prend des décisions pour t'aider à naviguer la vie. Sinon, imaginez la surcharge d'informations. Si notre conscient devait se dire, OK, là, il faut que tu clignes des yeux, puis après, il faut que tu regardes à droite, puis après, il faut que tu... Donc, c'est vraiment pour venir simplifier la manière dont tu processes les informations.
Moi, c'est pour ça que j'aime ça faire du yoga.
Oui.
Parce que le prof, il te le dit.
Exactement. Oui. Il te dit, là, tu vas avoir des pensées qui vont arriver.
Oui, c'est ça.
Il faut que tu les acceptes. C'est correct. Après, elle va passer, puis tout ça. Puis ça, c'est un peu les pensées qui se passent dans notre conscient, mais les pensées, ils proviennent souvent de notre inconscient, qui est nos peurs, qui est notre passé, qui est nos désirs qu'on n'assume pas. Donc, il y a vraiment plein de choses qui se passent dans notre inconscient. Puis c'est beaucoup nos automatismes, comme tu dis, un peu les chemins neuronaux que s'est fait notre cerveau pour dire, bon, à chaque fois que cette personne-là se fait ses cheveux, elle fait tout le temps la même chose. Fait qu'on va y simplifier la vie, elle va le faire de manière inconsciente, puis on le fait automatiquement. Ça prend tout le temps le petit même chemin neuronal. Puis là-dedans se retrouvent aussi les habitudes qu'on va avoir, les bonnes et les mauvaises habitudes qui font que c'est tellement difficile de s'en défaire. Puis moi, le parallèle que je veux faire avec les organisations, puis je fais beaucoup de parallèles entre l'humain et les organisations parce qu'une culture d'entreprise, c'est un organisme vivant, c'est composé d'êtres humains.
L'humain est au cœur.
Est-ce qu'on peut s'entendre? Mais c'est un fait, c'est des humains. À part les machines dans les usines, mais les machines, ils n'ont rien à voir avec la culture. C'est pas eux qui font qu'il y a de l'autonomie ou pas, là. Mm. C'est vraiment les êtres humains qui créent une culture. Donc, une culture, c'est un organisme vivant. Et un phénomène qu'on retrouve de manière individuelle peut très bien être vécu ou être ressenti sur un point de vue d'une culture. Donc, j'ai remarqué qu'il y a des entreprises qui vont beaucoup plus prendre de décisions de manière consciente que des décisions de manière inconsciente. Puis à quoi ça ressemble ça?
Ouais, c'est
une entreprise, non, je vous amène là, dans un univers parallèle, là. Une entreprise qui prend beaucoup des décisions basées sur l'inconscient, ça va être qu'ils vont prendre des décisions basées sur beaucoup les patterns organisationnels qui existent depuis toutes ces années-là. Puis c'est juste les bonnes vieilles habitudes, la manière dont on a toujours fait les choses, puis on s'en rend même pas compte.
Moi, je t'en ai dit.
Tu sais, pourquoi changer une formule gagnante?
Oui, mais ils s'en rendent même pas compte nécessairement. C'est très dur à changer, d'où la gestion de changement qui est essentielle. Mmh. Mais comment on va identifier ça, puis comment savoir, puis déceler que vous êtes dans une culture de ce type-là, c'est que la haute direction, quand je fais des ateliers avec eux, par exemple, ils vont avoir une certaine perception de leur organisation. « Ah, nous, on est super créatifs, innovants, nos employés sont comme ça, X, Y, Z. » quand je sonde les employés puis que j'écoute les groupes de discussion et tout ça, c'est une toute autre réalité. Mmh. Donc, quand il y a un écart comme ça entre ce que la haute direction pense de l'organisation et de ce qui est réellement vécu dans la réalité, bien là, on sait que les décisions de la haute direction ne sont pas tous faites de manière consciente. Parce que sinon, on sait qu'on veut innover, on sait qu'on a... C'est le côté aussi de reconnaître les points d'amélioration. C'est de vraiment avoir une entreprise consciente, une entreprise qui est connectée à la vraie réalité de ses employés, qui est vraiment capable d'être aussi humble sur les points d'amélioration parce que personne n'est parfait, aucune organisation est parfaite. Donc, c'est vraiment d'avoir cette connexion-là. Et je parle de ça parce que c'est tellement quelque chose qui est un enjeu que je remarque dans des organisations. Je leur dis... Ouf, attention, là, parce que c'est pas du tout ça, là. Puis, ils ont une claque d'en face.
Ben, nous,
vous n'êtes pas innovant.
On le voit en recrutement. Tu sais, des fois, ils disent, ah, bon, mais moi, je fais ça comme processus. Puis là, on arrive. C'est le même principe, là, qu'on fait en recrutement, là. Puis, c'est pour ça qu'on parle du nouveau recrutement. C'est pour ça qu'on parle, qu'on a fait un podcast d'humaniser le recrutement. Parce que, des fois, qu'est-ce que le gestionnaire pense? Puis, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ça, il se dit, ben, pourquoi il n'y a pas de résultat? Well, well.
Exactement.
Your monde.
Pourquoi il n'y a pas de résultat? Ben, ce monde-là, pour moi, c'est tous les patterns de l'organisation qui font puis qui sont durs à changer. Ouais. C'est toutes les structures hiérarchiques, les comportements des gens qui font de manière automatique parce que c'est ça l'environnement dans lequel ils sont puis qui est dur de défaire.
Puis tous les paliers.
Exactement.
Avant, c'était correct qu'il y ait des paliers. Puis là, avec la nouvelle génération, qui veulent tout, que ça soit lean, que ça soit des entreprises libérées, que, tu sais, tout ça fait en sorte que, moi, je pense que, là, depuis la COVID, là, dans ma tête à moi, là, on vient de faire une ligne.
Oui.
Ah, puis là, bienvenue à la nouvelle vie.
Point de non-retour.
Exactement. Ouais. C'est le nouveau recrutement, c'est la nouvelle vie. Puis là, ben il y a un train qui passe, là, t'embarques ou tu débarques.
Exact.
Après ça, tu peux pas chialer que ça fonctionne pas.
Oui.
Parce que là, tout le monde le dit, là. On doit changer nos manières de faire.
Ouais.
On change nos manières de consommer. Nous, on change notre manière de recruter. Vous, ça doit être, on change la manière de marketer. Mais il y a un point de non-retour.
Mais
exactement. On part de où? Justement, si on prend une entreprise que, justement, qui est prise dans ses anciens patterns, qui justement, là, il n'y a plus de résultats, on part de où? Puis c'est le job de qui à le faire?
C'est une bonne question. Puis pour moi, il y a plusieurs éléments de réponse. Je pense que ça part d'un audit. Puis c'est sûr que moi, je suis... Pas que je prêche sur ma paroisse, mais je prêche pour ce en quoi je crois qui est les données, qui est vraiment de prendre le pouls des employés. Faut s'asseoir en comité d'autre direction puis se demander c'est quoi notre culture d'entreprise puis c'est quoi l'expérience employée, qu'est-ce qu'ils vivent nos employés, puis il faut aussi après aller chercher la vraie vérité puis la vraie réalité
sur le terrain.
Le challenge, exactement. Groupe Focus est un exemple. Nous, c'est là qu'on va chercher le plus de notre information. Le challenge, c'est que beaucoup d'organisations le font eux-mêmes avec les ressources humaines. Premièrement, il y a une méthodologie spécifique à avoir. On fait pas juste leur demander hey, vous, ça va? Est-ce que vous pensez que vos employés vont nécessairement s'ouvrir comme ça? Il faut vraiment créer un environnement qui est très sécuritaire puis souvent qui est très confidentiel et dans l'anonymat. Et ça veut dire qu'un intervenant externe va vraiment beaucoup aider. Je m'en fous que vous n'engagiez pas 7/24. C'est pas pour nous vendre nous, mais allez chercher quelqu'un d'externe pour animer ces groupes-là, des professionnels, parce que vous avez besoin de quelqu'un d'externe. Vous êtes trop le nez collé dedans.
Il y a besoin d'un tampon entre les deux.
Ouais, puis c'est pour ça que j'arrive dans plein d'organisations, des organisations énorme, moderne, où est-ce qu'il y a tellement d'intelligence collective, mais pourtant, il y a des choses qu'ils ne voient pas parce qu'ils sont trop le nez collé dedans. Donc, d'avoir une personne externe qui va faire cet audit-là de c'est quoi l'expérience que mes employés vivent. Puis pour moi, l'expérience des employés, c'est est-ce qu'il y a du bien-être ou pas. Le bien-être, il est 100% lié à ça, là. Donc, c'est vraiment d'aller comprendre ça puis d'avoir un vrai reflet de la réalité. Puis après, c'est d'agir de manière consciente et de décider de se réveiller et de intentionnellement changer sa manière de faire et ses actions. Et ça prend du temps. Et des fois, ça prend de l'argent.
Oui, justement, parlons-en d'argent.
Ouais.
Ça représente quoi en termes d'investissement pour un entrepreneur, un employeur, en termes de bien-être des employés? Il y en a qui vont dire, « Ah, ben là, j'ai pas d'argent pour ça. Puis là, on commencera pas à payer des tables de baby-foot puis mettre de ci puis ça. » Tu sais, tangiblement, si tu te retrouves devant quelqu'un qui est un peu fermé, justement, à tout ça, qui est aux prises avec un problème de pénurie de main-d'œuvre, qui comprend pas pourquoi qu'il est pas capable de garder ses employés. Là, on dit tout ça est bon, mais on part de où là pour pouvoir saisir cette personne-là pour qu'ils comprennent que ben oui, ça prend un certain investissement. Qu'est-ce que ça représente comme investissement? Puis c'est quoi le retour sur l'investissement?
Vous entendez que je vais pas vous sortir un chiffre comme
non.
Ça. Mais par contre, je peux vous dire que c'est un investissement et ça peut être un investissement qui est important. Mm-hmm. Parce que ça représente beaucoup peut-être de consultations externes. On dit qu'on individue, tantôt on parlait de psychothérapie, puis on dit qu'on encourageait les gens à aller consulter, puis c'est important. Mais une entreprise doit faire la même chose. On a besoin de quelqu'un d'externe pour aller challenger nos chaînes de pensée, nos patterns organisationnels. Donc, tout ce qui est consultation externe, ce sont des frais. Tout ce qui est formation, sensibilisation, programme, initiative, ce sont des frais. Et j'avais parlé avec une experte de la diversité et inclusion. En fait, ça s'appelait JEDI. Je trouvais ça vraiment cool. C'est justice, équité, diversité, inclusion. Puis elle me parlait, elle me disait, ce qu'il faut dire au comité de haute direction, c'est que c'est de l'investissement en argent et c'est long, c'est des années. Un changement de culture pour transformer sa culture en culture ouverte et inclusive, par exemple,
ou innovante. Il
n'y a pas de quick fix. Puis c'est même pas 2-3 ans. C'est des années et des années et c'est un investissement constant à chaque année dans tout ce qui est, en effet, formation, consultation, etc., puis en ce qui est aide, puis le fait que c'est un effort qu'on fait. Puis c'est un effort souvent qui coûte de l'argent parce que c'est du temps. Puis le temps, c'est de l'argent pour les entreprises. Donc, c'est consacrer vraiment beaucoup d'efforts à ça. Ça doit devenir, tu sais, vous avez votre planification stratégique, là, nos décideurs du Québec, c'est un de vos piliers, ce que vous voulez changer dans votre culture organisationnelle. Si ça n'en est pas un, à la prochaine COVID, je ne nous souhaite vraiment rien de proche de ça, mais au prochain petit élément de « oh, on perd un peu de profit », ça va prendre le bord. Ça prend le bord.
Un peu comme le recrutement il y a 10 ans.
La première personne qui était coupée, c'est la personne au recrutement.
Oui. Là, dans ce cas-ci, pas nécessairement. Hein?
Non, mais qu'est-ce que tu dis? Ça s'applique, nous, à notre industrie, parce que souvent, il y en a qui m'appellent. Là, j'ai pas d'employé. Là. Tu penses-tu que, mettons, je peux avoir quelqu'un en sous-traitance qui vient 5 heures par semaine, puis cette personne-là va faire en sorte qu'on engage 40 personnes. Puis là, je suis comme, attends un peu, il n'y a pas de quick fix, nous autres non plus, en recrutement. Là. Je peux pas arriver, puis en une semaine, il y a des méthodologies, il y a un processus, il y a une façon de penser. Faut revoir tout ce qu'on fait, faut faire un constat, un diagnostic, puis après ça, tu fais, OK, ben, plan de match, mais après ça, faut que tout le monde soit aligné. C'est un peu le même principe. Si la direction n'est pas alignée, elle ne fait pas vivre aux gestionnaires.
Exactement.
Comment que les gestionnaires peuvent le faire vivre aux employés? Mais c'est un petit peu plus gros que prévu. Des fois, il y en a qui ne sont pas prêtes à ça. Puis c'est pour ça qu'on a décidé de faire, on va faire un podcast pour éduquer les gens parce que le recrutement, c'est la finalité d'un processus, c'est la pointe d'iceberg. Mais quand je vais gratter, le bien-être, il est là, la renume est là, la rétention, RH. Le marketing RH, tout ça est là, mais ça fait en sorte que c'est la finalité de mon processus. Mm-hmm. Puis qu'est-ce que tu viens de dire? C'est exactement ça. Ça veut dire qu'on vient de dire, hey, tu dis quoi? Nous, en recrutement, c'est le même. Le bien-être, c'est le même. Le marketing, c'est le même.
Il n'y a pas de quick fix dans la vie.
C'est ça.
À part la chirurgie esthétique. Mais ça coûte cher, ça faut investir.
Le retour sur l'investissement de la chirurgie.
Non, non, disons qu'on est dans l'authenticité. Non.
Attention, exact, on va pas dans ça. J'avais une idée par rapport à ça, puis j'espère que je ne l'ai pas perdue, mais je pense que oui.
Elle va revenir.
Ouais, c'est
on
ça.
Peut prendre une gorgée, hein?
Eh hey, ben oui, aussi. On va en profiter pour se faire
Chin.
Un petit
merci chose. D'être venu.
Chin!
Merci. On peut pas.
Ah non, on peut pas.
Santé.
Merci d'avoir reçu.
Alors, ce qu'on
quel
voit...
Oui, je voulais répondre à tes autres questions, en fait.
Mais si tu as ton idée, j'aimerais ça qu'on y revienne maintenant. On reviendra sur nos commanditaires
parfait.
Plus tard.
Mon autre question, c'est qui le responsable et qui s'occupe de ça? Puis j'ai beaucoup parlé de haute direction dans mon discours.
Et de ressources humaines un petit peu.
Et de ressources humaines aussi, et de gestionnaires aussi. Puis c'est ça. C'est super important que la haute direction soit... J'allais dire, au début, j'avais une métaphore du Moyen-Âge en me disant les ressources humaines, c'est comme les chevaliers, puis le roi qui doit s'occuper du bien-être, c'est la haute direction. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression que la haute direction doit même être un chevalier ou un guerrier de la table ronde du bien-être.
Je suis pas
sûre que j'adore cette métaphore-là encore. Mais ce que je veux dire, c'est que la haute direction, il faut tellement qu'ils prennent part à ça parce qu'on a parlé des volets du niveau de stress, de l'inclusion et de l'autonomie et ça vient tellement de la haute direction. Il faut qu'ils lead by example.
Ouais.
Toutes les vents de les moods, les énergies qui viennent de la haute direction, c'est eux qui cèdent de moods, j'ai envie de dire, mm-hmm. pour le reste de l'organisation, pour ce que les employés vont sentir.
Mais on dirait que si, moi, de qu'est-ce que je vois en PME... Si c'est pas une décision commune, si c'est pas axé sur les valeurs de tout le monde, si c'est pas chaque superviseur, chaque directeur qui est là pour prendre cette décision-là, on dirait que l'imputabilité n'est pas la même.
Ben oui, totalement. Ça va pas vivre.
Non.
Ça va partir, ça va prendre le bord. Il faut que les employeurs aient une claque d'en face. Pas les employeurs, les comités d'autres directions, il faut qu'il y ait une claque d'en face et soit comme waouh, je savais pas que c'était aussi important. Il faut vraiment que ce soit la priorité. J'y crois vraiment.
Donc,
il doit vraiment... que ce soit. Il faut vraiment qu'ils le prennent, qu'ils soient propriétaires. Puis les RH vont juste aider puis être dans le peut-être le day-to-day de ces démarches-là. Exactement. Puis du comment. Mais la haute direction, il faut qu'ils soient, puis qu'ils soient informés de ça, puis qu'ils aient le pouls, puis qu'ils soient sensibilisés.
Hey, puis guys, je sais pas pour vous, là, mais les RH, là, cette année, là...
On peut-tu les aimer? Oui, c'est un peu ouais, comme chapeau, on a ouais. beaucoup parlé des ouais. anges gardiens, là, ouais. les infirmières, puis ils font un travail extraordinaire.
Ouais. Ouais.
Mais c'est vrai que je pense que la pandémie a vraiment mis la lumière sur les ressources humaines, puis l'importance des ressources humaines dans une entreprise.
Les challenges, revenir au bureau, pas au, le bureau, des les normes, crayons, les
crayons. C'était toutes des challenges de ressources humaines.
Vraiment.
Le recrutement, il y en a qui font comme un catapeu.
Les pertes d'emploi et les recrutements et le recrutement.
La restructuration, tout. Là, en ce moment, avec la pénurie de main d'œuvre, tu as les salaires, puis le marché qui est effervescent, puis les contrats, la surenchère, puis chapeau. Là,
vraiment,
moi,
là.
On prend deux minutes, là.
Fait que là, on peut-tu arrêter de dire que les ressources humaines, c'est des poussous de crayon, puis genre leur donner la reconnaissance qui leur est due depuis toutes ces années-là. Fait que, en tout cas, oui, on va prendre une petite main d'applaudissement.
Merci, ressources humaines.
Bravo.
Non, vraiment, je suis 100% d'accord. Donc, surtout dans cette période-là.
Autres directions doivent absolument être impliquées. Puis je pense qu'on s'enligne peut-être plus vers une façon de gérer qui est plus une gestion participative, donc d'inclure tout le monde dans les décisions pour s'assurer qu'on est tous sur la même page.
Pour aider le bien-être. Exactement.
Sinon, jamais la culture va se transformer si la haute direction, elle est pas dans le bateau, là, on s'entend. C'est pas juste comme « Ah oui, en passant, on a ce projet-là. » Non.
Puis de pas faire…
C'est au cœur de ça.
Voici les problématiques de ton entreprise. J'ai pas envie de savoir les problématiques. Je veux juste entendre du positif. C'est pas comme ça qu'on évolue.
Exact. Moi, qu'est-ce que je retiens, c'est que tangiblement, là, tous les trucs tangibles, tu peux les googler, tu peux regarder dans les groupes, tu peux tout le faire, mais l'intangible, c'est de prendre le temps
Exactement.
Oui.
Puis ça fait toute la différence.
De s'ouvrir les yeux puis d'être prêt à entendre peut-être ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Malheureusement, c'est un éveil. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Donc, je vous pousse vraiment à aller chercher de l'aide puis aller faire ces prises de conscience-là. Ou peut-être juste que écouter cet épisode-là va vous éveiller sur
plusieurs éléments. Oui, puis des fois, on peut faire ça, c'est un peu comme... Juste comme ça. « Hey, toi, ma collègue, ça te tente pas d'écouter le podcast en 2 minutes 32 puis 15 minutes. Je crois que ça s'adresse à toi.
» Exactement. Puis il y a une deuxième clé dont je voulais parler.
Ooh.
La deuxième clé, c'est le fun, c'est comme des clés dans...
Par Boyard.
C'est exactement ça que je pensais, mais je peux juste pas croire. Mélinda, tête de tigre. Bon, OK. Donc, la deuxième clé, c'est vraiment de gérer de manière inspirante. OK?
Ooh.
Donc... inspirante. On tire vers le haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre le parallèle d'un super concept en marketing qui est le push et le pull. Ça, c'est deux techniques de marketing qui sont différentes. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, donc du marketing de push, là, on est justement dans le quick fix, le Black Friday, les techniques agressives de vente de « je te mets le produit dans ta face ». OK? Ça, ce que ça amène, c'est pour l'équité de la marque, c'est pas top. C'est pas quelque chose qui vient augmenter ou renforcer l'attachement de la marque au consommateur. Ce n'est pas quelque chose qui fait ça. On est vraiment dans les techniques agressives, le porte-à-porte dans un sens, là, de vraiment aller mettre le produit dans la face du consommateur. Le pull, c'est tout ce qui est les actions qui donnent envie au consommateur d'aller chercher ta marque. Donc, de rendre ta marque avec du contenu incroyablement pertinent pour tes consommateurs, puis ils ont envie d'aller te trouver. Puis ils vont te trouver peut-être parce qu'il y a un influenceur ou un ambassadeur qui parle de ton produit parce que c'est tellement un bon produit. Ça prend plus de temps, mais c'est ce qui vient vraiment avoir un effet positif sur ton équité de marque puis renforcer l'attachement avec la marque. Puis moi, je vois ça en gestion comme tu as deux choix. Tu as le choix de pousser les gens à t'écouter puis à faire des affaires ou tu as le choix de les inspirer puis de leur donner envie de travailler avec toi vers un objectif commun.
J'adore.
Puis je trouve que les gens, en général, moi, ce que je remarque, c'est que pendant le COVID, là, on a vécu, c'était difficile d'être dans le pool, là. C'était dur d'avoir envie d'inspirer. On était en panique.
Ouais, mais ceux qui l'ont fait, ça sont tellement démarqués.
Oh, mais tellement. Mais c'est difficile.
C'est là que tu voyais les vrais leaders.
Moi, j'ai beaucoup d'empathie et de compassion pour tout le monde. On est dans une situation qui n'est jamais arrivée. Tout le monde était des poules pas de tête. Mais quand tu es une poule pas de tête, tu prends des décisions basées sur la peur. La peur qui est aussi dans l'inconscient. Donc, tes décisions sont fiolées par la peur de plus avoir de business, la peur de perdre des clients. Et malheureusement, il n'y a pas de très bonne décision. C'est pas très inspirant, là, un leader qui parle de la peur. Mais malheureusement, beaucoup de gens ont fait ça. Vite, faut vendre des produits, là. Appelle tous tes clients, puis parle-leur d'un nouveau produit, de ça. Puis tes employés deviennent juste du bétail. Puis tu vas leur pousser de faire ça, puis il n'y a rien de moins motivant je l'ai déjà vécu, je sais ce que c'est, puis moi, dans ce temps-là, je rebelle, je veux rien savoir. Ça vient me démotiver, me désengager au plus haut point. Major turn-off, qu'on soit directif avec moi, que je sais même pas d'où que ça vient, je sais pas pourquoi, je connais pas le why de l'initiative. Je fais juste exécuter parce que on m'a dit de faire X, Y, Z, puis on met de la pression, puis il faut que ça soit fait maintenant. Ça, ça n'inspire personne et ça n'amène pas du tout de bien-être. Là, ça vient vraiment créer du stress qui est négatif. Quand on vient inspirer, c'est qu'on se base justement sur, puisqu'on est une entreprise consciente, on est connecté sur la réalité de nos employés et leur plus grande fierté. On va venir miser sur cette fierté-là qu'on connaît. Puis on va leur parler de ça dans notre discours puis leur dire, est-ce que vous voulez qu'ensemble, tu sais, rassembler. L'inspirer, c'est vraiment rassembler tout le monde puis dire, ça vous tente-tu qu'on fasse ça, puis c'est d'impliquer, puis on le fait ensemble, là. Tu sais, quelque chose de motivant, puis tu donnes envie, hey, on vit une période difficile, mais on va s'en sortir, tout le monde ensemble, let's go, un brave heart un peu of thing, là. Donc, c'est vraiment d'inspirer au lieu, je dirais que c'est oppressé, là, c'est un gros mot, mais tu sais, admettons que je fais l'opposé. Fait que le push-push, je trouvais ça intéressant en termes de méthode de gestion, tu sais. Je trouve que ça venait comme amener quelque chose d'intéressant.
Hey. Laura, j'ai envie de te demander. Là, tu peux pas les mettre pour de vrai, là?
T'es sûre?
Ben, ils sont.
Ouais, ils sont tous. Tout le monde est comme.
Ah, ouais, tout le monde a le goût des mettre, ben, là.
Écoute, je te fais confiance.
Nous, c'est notre logo, puis en même temps, c'est notre petite partie qu'on aime préférée. J'aimerais ça te demander, en terminant, si tu mettais mes lunettes, quel conseil donnerais-tu à la petite Laura qui débute? Tant au niveau du marketing RH, la stratégie du décisionnel que du bien-être. C'est quoi le conseil que tu donnerais quand tu aurais commencé ta carrière qui a fait toute la différence puis pour toi, ça aurait été une valeur ajoutée?
Je vais aller avec la thématique, mais ce pourquoi je suis tellement passionnée par le sujet. Je dirais à la petite Laura de toujours prioriser son bien-être. Son bien-être est plus important que son employeur. Son bien-être est plus important que ses tâches, que sa job, son bien-être est plus important que ses clients. C'est dur à dire, hein,
j'ai
ça.
J'ai goût de pleurer.
Ben,
c'est tellement un message important. On prend soin des autres, on prend soin de nos amis, on prend soin de nos collègues, puis on prend pas soin de soi.
Exact.
Puis c'est la fameuse analogie du masque d'avion, là. Faut vraiment un leader qui est pas sain d'esprit, qui n'est pas en conscience, qui n'est pas bien, qui se noie, ne peut pas prendre soin des autres.
Absolument.
Donc, je dirais vraiment, c'est toi qui es la plus importante avant quoi que ce soit. C'est ton bien-être en premier. Tu es la priorité numéro un.
Puis on l'a vu avec la COVID, hein?
On n'a pas le choix.
Tu peux perdre ta job demain matin. Là. Ça se peut, là. Fait que faut que tu fasses attention à toi. Là. Ton toi, t'en as un.
T'es plus important que ton employeur. Je suis désolée de dire ça pour tous les décideurs et les gestionnaires, mais c'est c'est ce qu'il faut.
C'est beau.
Bravo, c'est beau.
Oui, merci d'être venue à l'expérience. Merci.
Plaisir, c'est tellement cool. Fun.
Alors, on a un petit cadeau?
Oui, on a un petit cadeau, ma chère Laura, comme on est complice de votre croissance. On vous offre un petit cactus ici. Et il a été
pensé
et choisi parce que le bien-être, mais c'est beaucoup de petites branches et beaucoup de petites choses à prendre soin au quotidien. Donc,
ça va rester.
Oui, ça reste. Alors, je te le remets.
Merci énormément. C'est magnifique, ce petit cactus. Et en plus, ça demande peu d'entretien, ce que j'aime bien chez les plantes.
Contrairement à notre bien-être, Laura.
Oh, oui, c'est ça.
Celui-ci...
Donc, beaucoup d'arrosage à faire sur le bien-être. Le bien-être serait peut-être des hortensias en période d'été, comme je suis en train de vivre dans ma cour avant, qui demandent énormément d'arrosage de manière quotidienne. Sinon, les fleurs se fanent de manière...
Ben, c'est pour ça qu'on t'offre celui-ci. Comme ça, tu vas pouvoir passer plus de temps à arroser ton bien-être.
Parfait.
Merci énormément.
Hey, j'adore, là on est rendu loin.
Là, on est loin. Mais avant de en terminant, en fait, on aimerait remercier nos commanditaires qui sont les bières sans alcool Bocale, une entreprise de Drummondville. On a également les vins, les distributions d'importation privée, vins Olcades. Et bien sûr, nos chers amis de chez M2, sans qui moi et Fanny ne serions pas aussi élégantes.
On aimerait se terminer avec un gros remerciement à nos partenaires Annie Bienvenue Communication. On a PLG Numérique ainsi que le magnifique studio FX. Restez des nôtres, écoutez, partagez. Si vous voulez continuer sur ce sujet-là, je vous invite à échanger sur les médias sociaux. Merci beaucoup. Bienvenue à l'expérience et au plaisir d'être complice de votre croissance.